Pour conclure cette 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet, Hugues Puel, dominicain, économiste, ancien directeur de Économie et Humanisme, s'interrogeait sur l'engagement citoyen. Nous vous proposons ce soir d'écouter sa conférence enregistrée dans l'église de Castanet le 4 juillet dernier.
Alors, ces deux mots rassemblés, je pars du titre tel qu'il m'a été proposé, ces deux mots donc évoquent d'un point de vue, je vais parler à la fois d'un point de vue de théologien et d'un point de vue aussi de spécialiste du social, de ce qu'est la société, donc deux éléments, citoyens, mais citoyens de quelle cité ? S'agit-il d'une cité terrestre ou d'une cité céleste ? D'une société humaine ou du royaume de Dieu ? Ou des deux ? Et alors comment ? Engagement, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une démarche volontariste de se projeter en quelque sorte sur un terrain ? Ou est-ce que c'est une insertion dans des situations collectives que l'on essaie de comprendre, sinon d'orienter ? C'est-à-dire d'être un sujet vivant en relation avec les autres dans une société en mouvement. Alors, je vais dans un premier point essayer de répondre à la question « quelle cité ?» avec un double regard, un regard théologique, puis un regard plus de sciences sociales. En priant comme Jésus nous l'a appris, nous entrons en contact avec ce Dieu que nul n'a jamais vu. Bon. Citation de saint Jean que vous connaissez. Nous l'appelons Père et nous lui demandons que s'accomplisse sa volonté. Une prière que nous pratiquons fréquemment, je le pense. Quelle est sa volonté ? C'est l'avènement de son royaume, l'objet unique de la prédication de Jésus. Si vous avez lu les évangiles, c'est le royaume. Jésus ne parle pas d'autre chose. Quoi qu'il dise, avec toutes ses interrogations souvent déconcertantes, avec ses réponses qui sont de nouvelles questions, ou avec les miracles qu'il fait et qui sont autant d'apologues de ce que serait ce royaume à venir. Au deuxième siècle de l'ère chrétienne, l'auteur de la lettre à Dionysiète écrit « Les chrétiens habitent leur cité comme des étrangers. Ils prennent part à tout comme des citoyens et ils souffrent comme des voyageurs. » Moi, je ne suis pas un voyageur qui a beaucoup souffert pour venir ici vous rencontrer. La prise en compte de cette visée sur la cité de Dieu a nécessairement des répercussions sur l'engagement des chrétiens dans ces cités temporelles dont les formes ne cessent de changer pendant toute la durée d'un temps qui n'en finit plus, alors que pour Jésus et la première génération chrétienne, le retour du Christ était proche. La tradition chrétienne est fortement sous l'influence d'Augustin d'Hippone, 4e siècle, saint Augustin. Toute l'histoire de la culture occidentale a été marquée par ce chef-d'œuvre qu'est la cité de Dieu, source de ce que l'on a appelé l'augustinisme politique. Pour Irénée de Lyon, au 2e siècle, le pessimisme d'une chute originelle ne pesait pas autant sur l'origine de l'humanité que pour Augustin. Il n'y avait pas de gravissime péché originel, et le texte de la Genèse d'ailleurs ne parle pas de chute. mais une désobéissance enfantine à une interdiction édictée à Adam avant même la création d'Ève. On sait qu'Ève agit sous l'influence d'un serpent fripon dont on se demande pourquoi le Dieu très bon l'a bien placé là dans le paradis. Cet épisode étrange donne en tout cas au Créateur l'occasion d'asséner au couple originel mythique une magistrale leçon d'anthropologie dont le message est le suivant. La condition humaine est fondamentalement bonne, puisque c'est moi qui l'ai créée. Mais vous n'êtes pas des anges. Vous vivez dans les temps de l'humanité et vous êtes responsable de votre vie. Celle-ci sera difficile, puisque l'humain mâle devra travailler à la sueur de ses efforts et l'humain femelle traverser les souffrances des accouchements. Genèse 3, 16, 19. La dramatisation du péché originel, avec sa vision pessimiste de la société, vient d'Augustin, suivant l'épître aux Romains de Paul. Moi, j'ai eu la surprise, en lisant La Cité de Dieu, de découvrir cela, je ne le savais absolument pas, c'est que la cité de l'homme, pour Augustin, n'est pas créée par Adam. La société humaine, pour Augustin, est créée par Caïn. Caïn qui a commis un meurtre, mais qui aura quand même une bénédiction et sera un grand constructeur de villes. Dieu lui reproche son crime, mais lui donne néanmoins une sorte de bénédiction pour qu'il ne soit pas tué lui aussi et pour qu'il puisse poursuivre son propre projet créatif. Il le rend invulnérable pour qu'il soit capable justement de réaliser ses projets urbains. Ainsi, le démarrage de la cité des hommes ne se trouve-t-elle pas en Adam, mais en Caïn ? Pour qui est sensible au drame du monde présent, bon, cela donne évidemment à penser. Bon, voilà mon petit point de vue théologique, regard théologique sur cette cité. Mais maintenant, nous allons passer un peu plus longuement sur le regard des sciences de la société. Pour les sciences de la société, on ne parle de cité, et donc de citoyenneté, qu'après la révolution technique du néolithique, qui est celle de l'agriculture. Avec la traction animale pour les cultures et l'irrigation, un gain d'efficacité productive donne naissance aux villes au sens moderne du mot. La ville naît de l'agriculture, tandis que l'urbanisation de la planète procède des révolutions industrielles, du textile, de la mécanique, des transports, jusqu'au numérique, en passant par les sources diversifiées de l'énergie électrique et de l'électronique. Les sciences sociales ne parlent plus de la cité, mais de la société. Et elles cherchent à la définir à partir de sa finalité. Pas toujours d'ailleurs, mais la question de la finalité se pose. Les philosophes des Lumières voient une société de plus en plus gouvernée par la raison qui l'oriente vers le progrès. Auguste Comte construit une loi d'évolution en trois étapes. D'abord un état théologique où la société s'explique par des raisons surnaturelles, puis un état métaphysique dont les raisons de l'évolution s'expliqueraient par des causes abstraites, puis l'ère scientifique où nous serions et qui auront définitivement dépassé les aires théologiques et métaphysiques. Karl Marx analyse la dynamique de la société selon des causes purement immanentes à elle-même et non pas par une finalité extérieure. La société est un processus interne de lutte de ses classes composantes autour de l'appropriation des moyens de production. Les ethnologues s'intéressent aux sociétés dites primitives pour comprendre les sociétés modernes, mais ils se réfèrent au contraire à un principe de transcendance. La société leur paraît surdéterminée par le rapport au sacré. Émile Durkheim, donc un des fondateurs de la sociologie française, 1858-1917, décrit la division mécanique du travail qui résulte de la vie des hommes en communauté. Cette division, qui est d'abord technique, la fabrique d'une usine de production d'épingles, pour reprendre l'exemple de Adam Smith, qui était le lieu de la création de la meilleure utilité possible et de l'accroissement de la productivité, pour Durkheim, cette division du travail fonde une société, mais avec des inégalités croissantes, et Marx insiste sur l'aspect de la lutte des classes comme moteur de cette société. Mais Durkheim, contrairement, alors ça j'ai découvert ça récemment en discutant avec un ami franc-maçon qui était pour la laïcité, je lui ai dit oui, très bien, moi je suis pour la laïcité de l'État, mais la société est religieuse. Alors il me répondait pas du tout, c'est une position qui en fait est une position communautariste. Je dis non, pas du tout. En fait, la religion est société et la société est religieuse. Et une des grandes découvertes de la modernité, c'est avec la naissance de l'État-nation qui est le seul capable de mettre fin aux guerres de religion. Donc la laïcité de l'État est une chose, est une valeur qui dépasse de loin les préjugés des laïcards d'aujourd'hui. Quelle que soit la multiplicité des systèmes d'explication cherchant à décrypter les lois de son fonctionnement, la société se pense désormais de façon séculière, ce qui ne l'enlève pas le fait d'être religieuse, mais elle l'affirme à partir de la compréhension de son fonctionnement où la cause efficiente s'est substituée à la cause finale. Or, pour le chrétien, l'essentiel réside dans la finalité. La finalité ultime de la société s'atteint au cœur de sa vie dans une société de plus en plus séculière, mais vers une cité céleste sur le détail de laquelle, il faut l'avouer, nous manquons un peu d'informations. Tout au plus, savons-nous que toute larme y sera effacée et que Dieu y sera tout en tous. C'est déjà pas mal, mais ça laisse place quand même à un champ, une ouverture assez vaste. Évidemment, ça a des effets sur les engagements chrétiens, enfin les motivations chrétiennes de l'engagement qui sont impliquées, disons, dans cette perception. Mais je vous propose quand même d'en rester encore à une analyse séculière de la société, celle dans laquelle nous vivons et qui nous permet peut-être d'avancer dans la réflexion. Alors, j'ai été frappé parce que j'ai lu, comme chacun d'entre vous, là, en tout cas j'ai commencé à lire l'encyclique sur l'écologie du pape François, et j'ai trouvé implicitement, c'est assez peu implicité, mais tout à fait le type de réflexion que je vous propose maintenant de présenter sur la société comme un système de communication et comme un réseau d'intentionnalité d'acteurs. Intentionnalité d'acteurs, c'est-à-dire, à partir du moment où la conviction est forgée, une aptitude à s'engager, justement, à décider, à partager des projets, etc. Donc, la société comme système de communication et comme réseau d'intentionnalité, dont l'action a un sens dans un cadre d'institution, c'est-à-dire de normes et de règles. La représentation de la société comme système de communication est pleine de sens pour nous qui vivons à l'heure du numérique et qui fait émerger une société civile internationale. On la trouve, et je l'ai trouvé en tout cas personnellement, chez le sociologue allemand Niklas Luhmann, qui est un ouvrage qui remonte à 1984, qui n'a jamais été traduit en français, mais je l'ai étudié, pour être franc, dans une traduction anglaise. L'auteur nous présente un système social pris en étau entre la complexité et la contingence. L'inclusion du sujet dans la société met l'accent sur la contingence, tandis que la prise en compte de la société en elle-même souligne le jeu des complexités qui prennent souvent le visage de la nécessité. Dans la complexité immanente et obscure qu'est le système social, l'autoconstruction du système s'opère par l'action des sujets humains. Donc, la communication n'est pas la transmission de messages et elle ne se réduit pas à l'information. Donc, je répète, l'émetteur ne doute pas de ce que le récepteur reçoit. Tout dépend du récepteur et de l'impulsion qu'il enregistre. Il n'y a en effet aucune garantie pour que le dit message soit reçu avec la même signification que celle que lui a donnée son émetteur. La nature de la réception dépend entièrement de l'attention que lui accorde son récepteur. La communication est un processus de sélection en vue de l'action. Donc, j'ai insisté lourdement sur les trois temps de la communication, information, expression, compréhension. C'est la compréhension qui conclut l'acte de communication et permet son intégration dans la dynamique de l'intentionnalité. Mais l'intégrer dans ma compréhension ne conduit pas nécessairement à l'action elle-même. Je peux comprendre que fumer prédispose au cancer du poumon sans décider de m'arrêter moi-même de fumer. La compréhension intègre la communication à l'intentionnalité, mais se distingue du passage à l'acte. Mais la communication crée une situation sociale qui prépare le terrain à l'action. La contingence de l'action est considérable. La liberté n'est pas un vain mot. Et elle a deux faces. Elle vient à la fois de l'intentionnalité elle-même, mais aussi des interactions entre les diverses actions des individus. La communication n'est donc pas l'action. D'une part, le rejet du message est toujours possible, et le passage à l'action est modulé par son destinataire selon des considérations telles que « pas de cette façon » ou « pas maintenant ». La communication épouse toutes les complexités de la relation à l'autre à travers l'intersubjectivité et la culture. Alors, je prends un exemple dans un film que vous avez peut-être vu, qui est Taxi Téhéran. On dit que les Iraniens sont de grands menteurs, non pas selon une rationalité substantielle, mais selon une rationalité limitée qui est fonction de leur situation politique. Les mensonges les aident à survivre dans une société policière où la dissimulation est une nécessité de survie du quotidien. Alors, je conclus cette partie austère de l'exposé, d'un exposé de philosophie sociale en quelque sorte, sur la société, c'est-à-dire la cité des hommes, on revient à notre cité, la cité des hommes, telle qu'elle devient. Sa base repose sur le jeu des intentionnalités qui émanent de sujets vivants, de personnes humaines, mais elle s'exerce dans le cadre collectif d'institutions et d'organisations. Alors, un mot sur la société de l'organisation. Nous vivons dans des organisations, des entreprises, des associations, et tels sont les lieux de nos engagements. C'est bien là qu'ils se trouvent. Les sociologues qui cherchent à comprendre leur fonctionnement et leur évolution dans le temps doivent reconnaître les interactions qui s'y produisent et les compromis qui s'y passent entre les acteurs. Alors, je prends un exemple dans la sociologie industrielle. Le cas du freinage du rythme de production dans un atelier industriel. Bon, c'est un atelier classique à la chaîne, quoi, organisation taylorienne, comme on dit. Donc il y a une équipe qui est là et le chef d'équipe est très mécontent parce que visiblement les ouvriers ne font plus la production qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc il y a ce qu'on appelle un freinage, il y a un système de freinage à la production qui s'est imposé en réduisant son rythme. Alors, première réaction, ce sont des feignants. Deuxième réaction, ils sont manipulés par la CGT. Mais si l'on admet évidemment que avec les sociologues, que les choses doivent s'expliquer par le sens de l'action, on ne peut pas en rester à ces jugements superficiels, pourtant très, très courants. Donc ils vont chercher le sens de l'action pour comprendre, dans une enquête approfondie, ce suppose du temps, découvre que quel est le sens de cette action pour les acteurs. Même cela n'est pas facile à détecter. Peut-être ça s'explique par le sentiment que le salaire est trop bas et qu'on en fait toujours trop pour ce qu'on est payé. Ou autre motivation, ça peut être pour embêter le contremaître, tatillon, jugé incompétent, en le mettant en porte-à-faux par rapport à sa hiérarchie. Ou pour faire modifier le taux des pièces produites si le salaire est au rendement. Ou pour faire passer le système de rémunération du rendement au temps passé ou à la mensualisation. Ou enfin pour contraindre la direction à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Bon, donc vous voyez déjà là, sur un exemple, le freinage qui ne paraît pas une organisation d'une complexité extrême, on voit déjà à quel point sa lecture, sa simple compréhension est difficile. La connaissance par les dirigeants des organisations, entreprises ou administrations est d'un enjeu majeur pour qu'ils décident avec efficacité des changements pertinents à opérer pour maintenir en vie leur institution. Donc, on voit bien, bon, je suis encore marqué par le débat d'hier avec des gens d'entreprise, on voit bien comment tout peut changer dans une entreprise quand on passe d'une situation de méfiance à une situation, par suite de tel ou tel événement, de confiance, et de comment toute une série de comportements peuvent changer. Enfin, on voit bien qu'il y a là une marge de développement et de progrès qui est sans commune mesure avec une augmentation de 1 ou 2 points de productivité. Donc c'est là où pour ça je suis un économiste hétérodoxe, je pense que en se focalisant sur le problème de critères économiques de rendement étroit, on ne comprend rien à ce qui se passe et à ce qui peut se passer dans les entreprises. Et évidemment, c'est un point dans les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, évidemment un point sur lequel on insiste beaucoup. Alors, je me suis centré dans cette analyse du lieu d'engagement, en quelque sorte, sur la société. Parler plutôt de la société, société économique même. Mais il faut quand même que je parle, parce qu'il y a aussi l'aspect politique. Nous sommes dans des sociétés qui sont organisées sous forme d'État-nation. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une organisation des Nations Unies, donc il y a un Conseil de sécurité qui a un certain pouvoir, si réunit certaines conditions d'accord pour des interventions militaires, qui ne sont d'ailleurs pas faites par lui, mais par tel ou tel État-nation qui s'en charge. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation où les conditions techniques et économiques sont celles de la mondialisation. Mais nous avons une organisation politique qui est celle d'un particularisme de nation. Il y a 193 nations aux Nations Unies et à la FIFA, il y en a de plus de 200. Cet État-nation, dont le critère principal est la souveraineté, le principe fondamental est la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? Ça veut dire celui qui a la décision en dernier sort. Donc les États sont souverains quand ils ont la décision en dernier sort. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'États-nations qui n'ont pas beaucoup de décisions en dernier sort. Bon, actuellement, l'affaire de la Grèce, évidemment, nous interroge sur des questions comme cela. Et ce qui s'est passé dans l'organisation du monde, c'est que cet État-nation, qui est une forme d'organisation qui est un véritable progrès, au XVIIe siècle, avec les accords de Westphalie, évidemment, pour mettre fin aux guerres de religion, rappelons-nous bien ça, pour mettre fin aux guerres de religion, on a inventé justement cet État-nation qui est devenu de plus en plus un État laïque, quelquefois même persécutant les religions, mais un État dont la sécularité est évidemment fortement affirmée, même si c'est au détriment de certains aspects de la société. Les ruptures de la chrétienté avec la réforme a permis l'émergence d'un État au-dessus de religions différentes qui se combattent et font obstacle à la paix civile, assurant la suprématie d'une souveraineté séculière au détriment des souverainetés religieuses. Alors, j'ai écrit tout un ouvrage sur les souverainetés il y a deux ou trois ans. Depuis les horreurs des guerres mondiales du XXe siècle, la société internationale s'est organisée sur le principe de la souveraineté des États-nations, sous le contrôle de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Les dirigeants de ces États veillent sur la situation de chaque État-nation, qui était une cinquantaine en 1945 au moment de la conférence de San Francisco et presque 193 aujourd'hui. Mais dans quel État sont ces États-nations ? Alors j'ai écrit dans une revue de théologie justement dans quel état ces États-nations. Là, il est certain que si le système de l'ONU faisait vraiment son travail, il devrait être penché sur ces États-nations qui sont actuellement effondrés ou qui n'arrivent pas à se constituer parce qu'ils sont mal composés, etc. Donc là, on est dans la... Si vous pouvez lire le journal, là notamment l'actualité internationale, avec cette grille de l'État-nation. Ça vaut pour la Grèce, qui est un État-nation sans maturité, mais ça vaut aussi pour l'Érythrée, qui est un État totalitaire, enfin un État despotique au dernier degré, etc., qui fait que ses habitants le fuient. Alors, question, comme État souverain, est-il capable d'assurer la défense de son territoire ? Comme nation, est-elle un vrai lieu d'application du droit du peuple à disposer de lui-même? Comme État de droit, met-il en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 1948, on pourrait en parler, moi je considère que c'est un miracle d'avoir une Déclaration des droits de l'homme où est affirmée non pas la liberté, comme on dit en 1789, mais la dignité de la personne humaine. Donc ça, c'est un miracle, mais il faut le mettre en œuvre, quoi. Comme État social, promeut-il le droit des salariés, ceux de la famille, et veille-t-il à l'ordre public en tenant compte des populations les plus fragiles ? Comme État ouvert à une société mondiale où les interdépendances sont de plus en plus fortes sous l'impact de la technique, de l'économie et des changements climatiques, quelles sont les responsabilités qu'il assume ? Donc, vaste est le champ possible et nécessaire des engagements citoyens, car telle est la cité des hommes aujourd'hui. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui sera un peu moins austère, je l'espère. Quel engagement ? Donc, quel engagement ? Pour le chrétien, la destination est la cité de Dieu. Mais elle est déjà là, dans l'Église, rassemblée pour l'Eucharistie et dans la communion des saints. Mais nous vivons dans la cité des hommes. Chaque chrétien doit se demander comment s'engager dans la société internationalisée à partir de son appartenance à un État-nation particulier. Chacun peut parler de son histoire, de ses expériences et de ses désirs, mais ce qui est commun à tous ces engagements, des intentionnalités qui interagissent les unes les autres, c'est la façon d'entrer en relation avec les autres. Donc là, on est dans un truc, c'est le chapitre 25 de saint Matthieu. Bon, c'est frappant. C'est quand même, le critère du royaume de Dieu est un critère séculier, c'est pas un critère religieux. Ça demande réflexion. Alors là, je vous présente trois voies. C'est tout à fait arbitraire ce que je présente, mais ça m'a frappé dans l'expérience que je peux avoir ces dernières années. Donc il y a ce que j'appellerais la voie de l'amour humain, la voie de la rencontre et la voie de la fraternité. Alors la fraternité, on a dû vous en parler, notamment avec la responsable de Secours catholique, parce que je crois qu'elle a des propos très forts là-dessus. Mais je vais donc vous... Il est certain que j'aurais pu faire les choses autrement si j'avais eu plus de temps, c'est de faire cela à partir de l'encyclique de François. Sur l'écologie, on aurait fait. J'ai amené un certain nombre de citations que j'ai relevées parce que j'ai fait une lecture complète, sérieuse, mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de retravailler ce document qui, à mon avis, est important. Alors, là, je vous présente les trois voies que j'ai préparées. La voie de l'amour humain, avec la distinction. Alors ça, c'est Benoît XVI qui avait ressorti ça. C'est une vieille analyse philosophique. C'est la distinction dans l'amour humain entre l'éros, la philia et l'agapé. Donc l'amour humain est unique, mais en même temps, comme explique Benoît XVI dans Deus Caritas Est, c'est un sentiment complexe composé de trois éléments, donc éros, philia et agapé. Alors l'éros, c'est l'amour érotique. Il est inspiré par le désir, en particulier le désir sexuel, mais pas seulement, puisqu'il concerne d'autres désirs, comme le pouvoir. C'est un mouvement ascendant d'une personne vers une autre et qui relève de l'ordre de l'avoir. Dans le cadre des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, nous avons fait une écoute d'une expérience d'un des membres de notre association qui a créé une entreprise qu'il a animée pendant 20 ans puis qu'il a revendue. Et donc, on lui a demandé de faire une monographie, en quelque sorte, sur son expérience. Et dans le petit groupe qui travaillait, justement, alors il a expliqué comment il avait, pour constituer son équipe, il avait joué de la séduction. Bon. Et alors l'autre personne avec qui j'étais disait, mais enfin tout ça, ça c'est dans l'action, on ne devrait pas recourir à la séduction, il faudrait être plus empathique, enfin plus respectueux de trucs. Et puis finalement, moi j'étais pas tellement d'accord, parce que je crois que justement dans une création d'entreprise, il y a de l'éros. Et qu'il faut, c'est difficile de constituer une entreprise. Il faut acquérir un certain nombre de choses. Il faut séduire. La séduction, ça rentre vraiment dans la constitution de l'équipe. Alors évidemment, une fois que l'entreprise est constituée, il y a une certaine stabilité qui s'instaure, une certaine sécurité dans les performances économiques. À ce moment-là, il peut y avoir un climat de confiance. Filia, justement d'amitié. L'amitié peut intervenir, qui est évidemment une forme plus noble, plus humainement plus élevée que l'éros. Alors, l'agapé, c'est un terme grec aussi, c'est une forme d'amour que le christianisme n'a pas inventé. Non, le chrétien n'a pas inventé le mot lui-même, le mot d'agapé, il existait déjà, comme amour, comme amitié oblative, enfin. Mais le christianisme lui donne une signification théologique, à la différence de l'éros, c'est un amour descendant, alors que l'éros est ascendant, alors que l'agapé est reçu. À la différence de la philia, il n'attend aucun retour, aucune réciprocité. Il descend dans le cœur des hommes, soit par Dieu directement, soit par la médiation de Jésus ressuscité, en relation intime avec le mouvement de l'Esprit. Jésus crucifié, qui donne sa vie pour ses amis, pose un acte de pure gratuité qui est offert à chacun. L'agapé est un amour gratuit, il est de l'ordre de l'être, alors que l'éros, lui, est tout à fait de l'ordre de l'avoir. Toute spiritualité de l'engagement combine ces trois éléments de l'amour humain. Il ne faut pas se faire dire, l'amour, l'éros, ça existe et ça doit exister. Ça ne relève pas d'un jugement moral a priori. C'est une partie de notre humanité. Donc, la spiritualité de l'engagement combine ces trois éléments de l'amour humain. Par exemple, celui qui s'engage dans la création d'une entreprise, comme lui, exerce à travers l'acquisition des moyens de lancer son affaire, compétences, moyens financiers, mobilisation des partenaires pour obtenir des marchés et des réseaux d'information, il exerce son éros. Quand l'affaire est en route et approche de son régime de croisière, l'amour d'amitié se développe avec les collaborateurs internes de tous les niveaux et avec les partenaires commerciaux. Alors ça, hier après-midi, on discutait de ça, le doux commerce, comme disait Montesquieu. Le fait que la compétitivité ne soit pas la mort de l'autre, la guerre économique, mais soit une relation où si quelqu'un est plus performant que moi, c'est pas moi qui aurai le marché, mais je le reconnais, mais c'est pas mon ennemi, et on peut créer des circonstances où il y a des coopérations qui interviennent. Donc l'amour n'est pas l'économie n'est pas la guerre économique. Ça peut être le doux commerce. On dit d'un homme ou d'une dame, elle a un agréable commerce. C'est-à-dire ses relations, ce sont ses relations à l'autre. C'est les relations. Et dans la vie des affaires, il y a des cas, et on en a des cas où justement la création d'un climat de confiance et d'amitié permet des innovations économiques, des performances économiques, meilleures, quoi. Face aux vicissitudes de la vie économique et le renouvellement constant des techniques, des marchés, des formes d'organisation, et puis le contexte écologique aussi qui pousse à cela aussi. L'encyclique le montre très bien. L'entrepreneur chrétien est soutenu par une spiritualité qui lui est révélée à travers les échecs et les souffrances, les réussites et les succès, l'amour gratuit de Dieu. Il a pour mission d'aider autrui à faire aussi la découverte. Bon, ça c'est des choses qui se pratiquent, qui se découvrent dans des mouvements comme les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, le mouvement chrétien des cadres et dirigeants, les chrétiens dans le monde rural, enfin c'est ça, quand on a l'expérience d'équipe de ça, on voit bien qu'il y a des réalités de cet ordre qui se joue. Alors ces mouvements illustre des initiatives de l'Église catholique organisées avec des coopérations œcuméniques, chacun à son itinéraire où se déploie l'agapé en vue de purifier l'éros et de transcender la philia. Donc c'était quelques premières pistes donc autour de l'amour, de l'amour humain, quoi, toutes ces formes. Alors il y a une autre piste qui est celle de la rencontre. Alors ça, c'est une chose que j'ai découvert récemment dans le livre que j'avais écrit sur les souverainetés. J'avais utilisé le même texte biblique qui est celui de Genèse 32 sur l'histoire de Jacob qui doit passer la rivière Yabok avec ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants. Et Jacob reste seul sur la rive, et quelqu'un, on verra ça de qui il s'agit, quelqu'un lutta avec lui jusqu'à la pointe de l'aurore. Il comprit qu'il ne serait pas le plus fort et fut touché au creux de la hanche, et dans la lutte la hanche de Jacob se démit. Laisse-moi partir, dit l'homme, l'aurore s'est levée. Donc c'est Jacob. Je ne te laisserai pas partir. Non, c'est l'homme qui dit ça. Je ne te laisserai partir que si tu me bénis. Quel est ton nom? Demande à l'homme. Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Tu as affronté des dieux et des hommes, et tu as été le plus fort. Donne-moi ton nom, demanda Jacob, et ici il le bénit. Donc Genèse 32, 25, 30. Alors, moi j'avais compris, j'avais interprété l'homme, parce que ça peut être l'homme, ça peut être Dieu, le combattant de Jacob. Et je l'avais interprété comme Dieu, et avec l'idée, disons, que après tout, le rapport avec Dieu ne sont pas si faciles que ça, que c'est difficile, qu'il y a des blessures, même dans le combat avec Dieu. Et puis alors j'ai découvert un courant d'économistes que je ne connaissais pas, avec un certain professeur Bruni, qui est un Italien, et qui reprend le même texte. Mais pour lui, c'est un homme. Et le combat, ce n'est pas un ange non plus, ça peut être un ange, si ça c'est l'intermédiaire entre l'homme ou Dieu, quand on ne peut pas choisir. Si on l'interprète donc comme la figure de Dieu, on en conclut que les rapports avec Dieu ne sont pas de tout repos, ce qui était mon interprétation. Cet économiste italien donc, que je découvre, Bruni, interprète l'ange plutôt comme un autre homme, et comme la relation à Dieu, la vraie relation à autrui, est marquée du double saut de la blessure, donc le handicap de la hanche, et de la bénédiction que Jacob obtient en renouvelant son identité. Il s'appelle désormais Israël, et la vie s'ouvre pour lui comme leader du peuple béni de Dieu, le peuple d'Israël. Cette relation à l'autre, et dans la rencontre, est ambivalente. Je crois que c'est du point de vue spirituel, c'est assez fort, c'est-à-dire que elle est à la fois l'occasion d'une blessure et en même temps d'une bénédiction. Cette perspective affecte la vision de l'économie. Alors c'est un courant de l'économie que je ne connaissais absolument pas dans l'histoire des doctrines. On ne l'enseignait pas du tout dans les universités françaises. C'est ce qu'on appelle les lumières napolitaines. Vous savez, il y a les lumières d'Écosse. Les lumières écossaises, c'est Adam Smith. Donc l'utilitarisme. Alors les lumières napolitaines, et au contraire définissent l'économie par rapport à plutôt un bien commun, quoi. Donc ça se rapproche plus de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et donc cette école économique a été redécouverte. Alors c'est les Focolari qui ont réintroduit cette avec l'idée de l'économie de communion, donc l'économie de communion. Et alors actuellement il y a des économistes français qui s'intéressent à ça. Donc moi personnellement je découvre ça. Ça faisait pas partie ni de ce qu'on a enseigné ni de ce que j'ai enseigné. Voilà. Et donc l'économie, alors la vision de l'économie en est affectée. L'engagement dans l'économie à tous les niveaux est virtuellement un engagement citoyen, donc un lieu de blessure et de bénédiction. Alors on voit bien l'économie, les maires qui accueillent les entreprises qui offrent des emplois, évidemment c'est une bénédiction, mais il y a un pouvoir qui s'exerce sur la municipalité. Enfin bon, négativement, les multinationales qui ont un poids économique qui leur permet de mettre à l'encan des États-nations dont le produit est inférieur à leur chiffre d'affaires. Par exemple, les multinationales qui exploitent les mines du Congo-Kinshasa et entretiennent l'anarchie et la corruption politique. L'économie sociale et solidaire, au contraire, veut favoriser les relations interpersonnelles. Les grandes organisations sont souvent tentées justement de remplacer la rencontre de l'autre par des procédures objectives. Vous savez, on a des règles, c'est-à-dire on est ce truc par exemple extravagant dans un travail qui est essentiellement collectif, de vouloir individualiser la rémunération. C'est de la folie. À ce moment-là, ces procédures objectives qui sont tout à fait critiquables, d'évaluation quantitative, de reporting paperassier, qui prétend justement éviter la blessure de la rencontre, à partir de cela, il y a autre chose. Il y a l'écoute attentive, la prise au sérieux des questions de l'autre, la recherche du vrai, la patience pour trouver les réponses adéquates. Cela vaut dans le monde des grandes entreprises et des administrations au personnel très nombreux. La politique sociale se caractérise souvent par des dispositifs qui cherchent à éviter la confrontation avec l'autre, par des systèmes d'assurance, l'octroi de primes ou des procédures bureaucratiques. Les revendications salariales ne sont le plus souvent que l'expression de frustration, d'un refus du dialogue ou d'un manque d'écoute et de relations. Et c'est bien d'ailleurs un problème que l'on vit avec l'inefficacité, la crise, enfin l'irrelevance de ces grandes organisations qui manipulent des grandes quantités d'argent, mais qui ne répondent pas aux problèmes des gens, comme c'est là aussi. C'est dans l'encyclique aussi, c'est expliqué là. L'engagement citoyen montre de nombreux témoignages de femmes et d'hommes qui résistent contre certaines façons de faire dans les structures collectives auxquelles ils appartiennent. Les prisons, les hôpitaux, les écoles, les sièges sociaux, les municipalités, les paroisses. Ils tentent la confrontation avec des collègues, des supérieurs et des inférieurs. Par le fait même, ils acceptent aussi de recevoir des coups, d'être bousculés dans leur façon de voir, de penser, de faire. Le risque aussi d'être marginalisé par un environnement trop timide, trop routinier ou trop apeuré. Blessés, ils découvrent souvent avec surprise la bénédiction qui s'ensuit pour eux au moment même où ils s'y attendent le moins. L'engagement, c'est l'accueil des rencontres et l'acceptation de ces risques. La personne engagée ne fuit pas les rencontres, mais les provoque, et cela paraît utile pour faire avancer les choses. Dans vos expériences d'engagement qui vous ont fait rencontrer les autres, sans doute, avez-vous constaté ce rapport entre la blessure et la bénédiction? C'est une deuxième forme d'engagement, donc, que je vous propose. Alors, il y en a une troisième. Alors, je pense que vous en avez entendu parler, mais je vais simplement l'évoquer parce qu'elle m'a frappé. Puis, je connais François Soulages et Patrice Sauvage qui ont été les initiateurs de cette affaire. Vous savez, le thème « Servir la fraternité ». Donc, en 2011, l'Église de France et le Secours catholique ont lancé la démarche Diaconia, qui a abouti en 2013 à une grande manifestation à Lourdes. Elle a été marquée notamment par un dialogue entre des pauvres et l'évêque de La Rochelle, Bernard Housset, le livre étant là, et sur la table dans le fond, quand les pauvres prennent la parole, et par une large démarche mobilisant militants et théologiens, dont rendent compte François Soulages et Patrice Sauvage, Servir la fraternité. Le livre est également aussi sur la table. À partir d'une définition de la pauvreté comme pauvreté relationnelle, le constat du Secours catholique, qui d'ailleurs prolonge celui d'Athénée Carmonde, porte sur la situation de notre pays le regard suivant. 1. De trop nombreuses personnes en France souffrent de malnutrition, de mal logement, de chômage, mais plus encore du manque de relations. Nous vivons dans une société de défiance, comme des économistes l'ont montré. 2. Ce déficit est un constat politique qui rencontre le message évangélique dont les chrétiens sont responsables, car ce message est contredit par l'absence ou le silence des pauvres dans nos églises et communautés chrétiennes. Cette convergence du constat politique et de l'exigence spirituelle fonde la pertinence du mouvement Diaconia, qui a eu un retentissement insuffisant, c'est mon avis, dans l'Église de France. Seule une petite minorité de diocèses et de paroisses y sont intéressées. Le royaume de Dieu a un double caractère, relationnel et politique. Le changement personnel s'articule sur le changement social. Le pas encore du royaume annoncé par Jésus doit transformer le déjà là de la société et de la cité terrestre. Tel est le sens de l'engagement citoyen pour le chrétien.
Avec Hugues Puel, dominicain, économiste, ancien directeur de Économie et Humanisme, s'achevait la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Le thème retenu cette année, Vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui, était développé par les 6 intervenants que vous avez pu écouter tout au long de cette semaine.